bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Avec Léa Kadouboudali, Marina Rollman, Tom Villa.
Bonjour.
Tout à l'heure, il y aura et Tanguy Passion et Daniel Morin. Et notre invité est en effet Monsieur Eric Orsenna. De l'Académie française, de France Culture, il n'y a que des titres de noblesse.
Hein. De France Inter
oui,
aussi.
Exactement.
Et France Inter aussi. C'est vrai qu'Eric, vous avez présenté tout au long de l'été 8 épisodes de 25 minutes sur France Culture qui racontait Beaumarchais.
Vous vous rendez compte?
Et oui,
c'est incroyable. Et je suis encore vivant.
Et je
suis encore vivant. C'était quand même rare.
Pas de vacances.
Notamment à l'Académie. Et voilà.
Immortel.
Et voilà. Immortel, mais pas éternel.
Belle formule. Beaumarchais, cet aventurier de la liberté. C'est vrai que, j'allais dire, tout est dans le titre. Le vécu, moi j'ai découvert, je ne connaissais absolument pas le parcours de sa vie.
Et ben moi non plus.
On avait retenu, si vous en saviez beaucoup plus que ça. On retient évidemment le barbier de Séville, on retient évidemment le mariage de Figaro, mais on ne savait pas, enfin je ne savais pas qu'il était horloger, qu'il était inventeur, qu'il était espion,
obsédé sexuel, vous saviez.
Oui, bah, ça évidemment, entre nous, on se réunit régulièrement.
Mais non, mais on nous raconte jamais ça à l'école, et sûr que si on nous parlait de Beaumarchais en ces termes, en nous disant, racontez, qu'il est tel un chat, qu'il a eu mille et une vies, qu'il retombe sans cesse sur ses pattes, même si il y a pas mal d'obstacles sur son chemin, je suis sûr qu'on aurait une forme d'affection pour l'auteur et que ça donnerait envie de se plonger davantage dans ses textes.
Mais vous savez, moi je suis prof, hein. Je suis pas du tout créateur, moi je suis prof, je raconte des trucs, quand je fais un truc sur la grammaire en disant que c'est une chanson douce et que c'est pas une horreur, mais c'est mieux de ranger sa chambre quoi, de temps en temps, et donc c'est pareil, et donc quand j'ai raconté La Fontaine, on pense qu'il y a que les fables, en fait il arrêtait pas d'écrire des contes qui étaient des contes incroyablement chauds, et donc il se faisait condamner à chaque fois, il revenait, donc c'est
et vous ça. Étiez venu nous en parler ici à ce micro. Et finalement, les fables n'arrivaient qu'en bout de course.
Oui,
exactement. De toute sa
c'est
vie,
ça ouais. qui est amusant, c'est-à-dire raconter. Vous savez, moi, je suis romancier, donc j'essaye de trouver un personnage.
Ah ben là, vous l'avez trouvé.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est extrêmement connu et pas connu. Mmh. C'est-à-dire Beaumarchais, tout le monde sait qui c'est. Mais qui sait que, par exemple, il a eu des idées parce qu'il était financier en même temps. C'est le roi du en même temps.
Oui. Déjà. Hein,
vous faites la vanne avec notre actuel président.
Ah, évidemment, parce qu'il se trouve que je l'aime bien, on s'entend bien, pas toujours, mais enfin bon. Mais en tout cas, voilà. Et en donc, cas, en même temps, c'est pas lui.
C'est
donc,
un peu la devise du siècle.
Ce que j'adore chez ce type, c'est que on peut avoir plein de vies. Et imaginez que je rencontre un jour le descendant direct de Beaumarchais. Jean-Pierre de Beaumarchais. Terrorisé. Donc je lui remets...
ce qui est vrai, parce que vous dites, imaginez qu'un jour je rencontre, on pourrait imaginer que ce soit...
Vrai.
C'est vrai, vous le rencontrez.
De temps en temps, je ne dis pas que des mensonges.
Non, c'est vrai.
De toute façon, je suis à France Inter, je suis obligé à être dans la vérité.
C'est contractuel.
Surtout dans votre émission, par contrat. Contrat gratuit, mais contrat. D'ailleurs, on pourrait parler de ça. D'ailleurs, j'ai une revendication syndicale.
Moi, c'est terrible. Il a raison.
Oui. Et donc, c'est Jean-Pierre de Beaumarchais. Je lui remets ce manuscrit, terrorisé. Donc j'attends la nuit et puis il m'appelle en disant c'est bien. Et comme c'est bien, il me fait un cadeau. Et le cadeau, c'est une citation. Citation de ce formidable poète portugais qui s'appelle Pessoa. Et il dit, n'être qu'un, une seule personne, est une prison. Bah, nous tous ici, on a plein de vies. Et moi, quand je vais dans les classes, je dis aux jeunes, mais vous avez beaucoup plus d'existence que vous ne croyez de vie, vous pouvez être tout en même temps. Et puis, ou séparer, ça dépend.
Et quel que soit l'âge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment... Non, mais je ne parle pas pour vous, je parle de Beaumarchais, arrêtez.
Mon déambulateur.
Il n'y a pas un moment...
Ah ouais, c'est bien fait, là.
On a parti. Comme ça, et puis voilà.
Donc, il n'y a pas un moment où lui s'est dit, j'arrête ou je me contente de cet état et de cette reconnaissance. On va en parler, en tout cas, de ce Beaumarchais. C'est absolument passionnant, cet aventurier de la liberté. C'est publié chez Stock. Mais d'abord...
Oh my God.
Encore plus facilement avec, appelle-moi Nagui, encore plus facilement avec l'absence de Daniel Morin, qui nous rejoindra lorsqu'il aura fini de faire des extras pour la direction de France Inter. On va jouer donc...
Oui, ça c'est une vie. Vous savez que ma prochaine biographie, c'est Daniel Morin.
Ah ouais. Parce que, ça va être une nouvelle, alors.
Parce que la diversité de la vie de Beaumarchais par rapport à celle de Daniel Morin,
on est d'accord.
Énorme.
Mais vous ne pouvez pas faire que des obsédés sexuels régulièrement. Sinon, on va vous soupçonner de certains vices.
Encore qu'il y a un public.
Il y a un créneau. À 10 ans, Eric reprochait à ses parents d'avoir des amis, mais des amis...
Ennuyeux.
Exactement. Ouais, t'as bossé, toi.
Oui.
Vous leur avez dit textuellement, vos amis ne sont pas intéressants.
Oui, ma mère me disait, mais pourquoi travailler autant? Parce que au fond, je m'ennuie moins que là. Et je lui disais, mais pourquoi tous les dimanches, le dimanche à 12h31, qui est toujours un poulet, pourquoi pas? Mais qui est toujours les mêmes amis et qui raconte toujours la même chose, mais changé.
C'est méchant.
Et j'ai, quel genre, c'est pas méchant, c'est affectueux pour eux.
Mais parce
pourquoi
que
ils étaient là.
Mais à ce que vous venez de résumer, c'est la vie de millions de personnes.
Mais non, mais ils peuvent après. Alors moi, je regardais les gens qui passaient en bas de la rue de Vaugirard, je me disais, ils doivent être forcément, il y a forcément des gens passionnants. Et je me disais, forcément, les gens, je les rencontrerai.
Non, enfin, vous vouliez qu'ils invitent Michel Strogoff plutôt que d'inviter leur ami, ce qui est quand même pas non plus à la portée de tout le monde.
Oui, mais si. Il suffit d'avoir
le 06 de Michel Strogoff.
Le 06 de Michel. De Strogoff.
Et vous auriez.
Et vient Michel Strogoff, vous savez, il est resté très simple, Strogoff. Hein.
Vous auriez rêvé d'avoir justement des aventuriers à table, d'avoir quel genre de.
Oui, tout le monde, je sais pas, moi. Après, j'ai eu cette chance à l'Académie, je suis fauteuil de Cousteau. Donc Cousteau, il m'a raconté des trucs avant que je le remplace, puisque si je le remplace, ça veut dire qu'il était parti. Mais des tas de gens incroyables. Alors on avait des personnages.
Mais quand vous étiez gamin, vous auriez aimé avoir...
Mais on avait ça de temps en temps, mais pas suffisamment. Le frère de mon père était architecte et clarinettiste. Il est parti au Brésil, pauvre Brésil, pauvre Brésil, pauvre Brésil.
Ouais, aujourd'hui, c'est honteux.
Il est parti au Brésil juste l'année de ma naissance, et donc il était là, il nous racontait des histoires incroyables. Parce qu'il travaillait avec l'architecte Niemeyer.
Oui.
Et en même temps, il était clarinettiste avec les plus grands musiciens. Oui. Et mon cousin était, jusqu'à une date récente, le saxophoniste de Georges Bem.
Alors, expliquez-moi votre définition de quelqu'un d'intéressant. Est-ce que quelqu'un d'intéressant, c'est quelqu'un qui a des histoires à raconter, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a une transmission, qui est pédagogue?
C'est une très bonne question. C'est quelqu'un qui a été, au bout de sa vie, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai vu avec mes enfants, je leur ai dit, vous faites absolument ce que vous voulez. N'importe ce que vous voulez. Mais... allez-y au bout. C'est-à-dire, vous
ne faites rien à moitié.
Ne faites rien à moitié. Mais même, vous savez, c'est la bataille des regrets. On en a parlé la dernière fois, mais j'ai pas beaucoup progressé.
C'est la bataille entre remords et regrets, c'est ça.
Oui, exactement. Ouais. Les remords, bon, très bien, mais les regrets, par exemple. Il y a 3 ans et demi, je me dis, t'adores la musique, tu sais rien faire. Tu regardes tes doigts, de temps en temps, tu peux faire des trucs avec tes doigts, mais bon, tu fais rien. Et donc, j'ai commencé le piano. Ouais. À 69 ans, le piano. Donc je suis nul. En dépit de mon prof que j'adore, Philippe Lecointe, que j'adore, je t'aime. Mais je suis très, très mauvais. Mais de temps en temps,
Ne pas s'interdire quelque chose. Parce qu'il y a le fameux « c'est pas pour moi ».
Il y a
même des familles qui disent « c'est pas pour nous ». C'est-à-dire notre rang social. Voilà.
Mais attendez, alors ça, c'est par famille et c'est par genre, par sexe aussi. C'est pas pour les femmes.
C'est vrai.
Ou alors on peut dire, cette femme, elle est trop belle pour toi, et c'est pas pour les chauves. Mais je les emmerde.
Vous mettez des barrières.
Je les emmerde, les femmes.
Sûrement pas. Mais on est étonné. Moi, je suis toujours étonné d'une qui dit oui.
Et gratuit, c'est quand même fou.
Comprenez, à mon âge, gratuit.
On va en reparler.
Comprenez.
Ok, alors.
Et je vous assure, c'est ça. Donc, le possible est là.
Il y a même des parallèles.
Le possible.
Il y a même des parallèles avec Beaumarchais, ce que vous dites, Eric. Là, on va revenir à ça.
C'est mon maître
absolument.
À penser.
À partir de 13 ans, que fait Eric Orsenna tous les jours avant de partir à l'école?
Du latin.
Non.
Des pompes, du sport.
Ah, ça serait bien
il
ça.
Il écrit.
Non. Oui.
Il écrit, ouais.
Exactement. 1 heure d'écriture par jour.
Ouais.
Tous les jours.
Quoi qu'il.
Ben oui.
Et vous faites ça depuis vos 13 ans.
Ça, c'est très joli, quoi qu'il. Quoi qu'il, on dirait, c'est ça, c'est marrant.
Ben ça va avec le Kézaku,
une coiffure. Bravo, le quoi qu'il. C'est vrai que très vite, j'ai écrit. D'ailleurs, avant 13 ans, à 8 ans, j'avais créé un petit journal qui racontait l'histoire de la famille. Et donc, j'avais tout compris des mécanismes de la presse, puisque je disais à mes proches, abonnez-vous, autrement, je dirai du mal de vous. Donc, j'étais typiquement un patron de presse.
Et Guy Plenel l'a repris plusieurs années après.
Et ça fait référence à une de vos anecdotes aussi dans le livre, quand il est question de la famille Dassault.
Oui.
Et dire que finalement, pour gagner un peu d'argent, autant faire semblant qu'on va commettre une biographie sur...
Menaçante.
Menaçante, où il y aura des révélations un peu embêtantes.
C'est génial, ce
passage. Et on repart avec un petit peu de sous directement à la sortie du rendez-vous.
C'est de dire aux gens, je vais écrire une bio interdite sur vous, ou alors, et donc les personnes disent, bah, je vous l'achète.
Voilà de l'argent.
Voilà de l'argent, et ne faites pas la bio.
Mais quand on me demande l'origine de ma si belle voiture Aston Martin,
wow, c'est de James
Bond. Mon projet de biographie de Nagui.
Vous avez la voiture de James Bond, sans blaguer?
Ben, évidemment.
My
name is Eric.
Eric. Tout est possible, absolument. Eric s'est beaucoup déplacé avec le président François Mitterrand. Quel était le moyen de locomotion préféré du président?
L'Aston Martin.
Non.
Le train, l'avion,
à pied.
Non. Le vélo?
Voiture?
Non.
Parachute.
Le jet.
L'hélico. Eric.
Non, mais on est amis.
C'est vrai.
Vous avez fait l'hélicoptère, ce qui est normalement une chose qui se fait uniquement en privé.
C'est pas bien.
Marina rougit. Incroyable. J'ai fait rougir Marina. C'était son moyen de transport favori. Pourquoi? Parce que c'était une manière de voir la France d'en haut.
C'est la France d'en haut. C'est relativement lent. C'était de voyer, c'est 200 mètres de haut. Et alors, c'était extraordinaire d'être à côté de lui. Alors, c'est un peu inconfortable parce que les hélicoptères, c'est un bruit incroyable.
Ouais.
Et alors, il racontait la France. Donc, on avançait assez lentement. Vous voyez, on avance genre 200 km/h et vous êtes à 150 mètres, 200 mètres. Et vous voyez tout. Et alors, il savait la France complètement. Il savait pourquoi tel village votait à droite, tel village votait à gauche. C'est absolument. C'était une histoire. Il n'y a que Michel Charras qui a une connaissance comme ça de la... Il y a des gens qui ont une connaissance, mais cantonale. C'est-à-dire l'église, vous voyez, ici, c'est une église. Ici, c'était une terre protestante. Ici, c'était les terres de blé. Ici, c'était l'orge. Ici, c'était la lime. Regardez. Alors, il y a des grands moments. Regardez. Ça, c'est la frontière de la vigne. Ça, c'est la frontière des tuiles. Et parce qu'au nord, c'est les ardoises. Au sud, c'est les tuiles. Mmh. Donc, on était dans ces grands historiens, genre Brodel, etc., où ils racontaient cet amour absolument charnel de la France.
En fait, quelqu'un d'intéressant, c'est quelqu'un qui vous apprend quelque chose. Soit par ses connaissances, soit simplement en racontant sa propre vie. Quoi.
Alors, il n'y a pas d'hiérarchie.
Voilà.
Du tout. Il n'y a pas du tout d'hiérarchie. Mais qui prend son temps de me raconter.
C'est ça.
Moi, ce qui...
Oui, ça peut être un artisan qui vous raconte son métier, sa passion. Voilà.
Il y a une intelligence de la main qui vaut bien l'intelligence de l'esprit. J'ai fait des livres sur l'art du geste, c'est-à-dire ce mécanisme-là, cette excellence incroyable. C'est quelqu'un qui a été un peu au bout et qui me permet d'explorer ce que c'est que le métier de vivre.
Ce que l'on retrouvera avec... c'est joli. Ce que l'on retrouvera avec, encore une fois, Beaumarchais. Enfant dans la famille Arnoux, hein, puisque c'est votre véritable nom de famille. Là aussi, comme Beaumarchais, vous avez pris un pseudo. Il fallait obligatoirement savoir...
Une poésie.
Non, il fallait savoir faire quelque chose, mais quoi?
Réciter quelque chose.
La cuisine.
C'est en lien avec la mer et les bateaux.
Cuisine.
Cuisine.
Les nœuds.
Attaché à cuisine. Cuisine aussi.
Ah bah non, ça a un rapport avec la
avec
mer et
les bateaux.
Non, mais il a validé ma réponse. C'est bon, allez, un point.
Ça n'empêche pas.
Les nœuds, les drapeaux.
Les marées, savoir se repérer, savoir.
Utiliser une
boussole.
Quelque chose. Juste un indice. Quelque chose qui sert en politique.
Naviguer.
Non.
Louvoyer.
Non. Mais arrêtez de faire des mimes, Eric.
Mais moi, je suis bienveillant comme garçon.
Nager. Oui, mais
je suis bienveillant comme garçon. Moi, j'aide le genre humain.
Bon, je peux plus arrêter la machine.
Pas
c'est pas.
En tout cas, nager.
Oui, nager. Bonne réponse. Nager, absolument. Il faut savoir nager. Par quoi? Par sécurité.
Nager par sécurité, puisque comme très très vite on faisait du bateau, donc on était obligé de nager. Donc il y avait des tests, toute la famille regardait et on voyait si on avait réussi à faire centaines de mètres. Si on avait fait 100 mètres, on avait le droit d'aller sur un bateau à marée, c'est-à-dire faire de la godille. Comme ça. Et puis si on avait traversé une partie de la baie, on avait le droit d'être seul sur un bateau à voile, ce qui était le cas à 8-9 ans. Donc il y a toujours eu la même chose pour moi, c'est-à-dire écrire et naviguer, c'est pareil. C'est-à-dire hisser la voile et puis écrire sur la page blanche, c'est exactement la même chose.
Vous dites que Beaumarchais...
Parce qu'au fond, ça laisse aussi peu de traces.
Vous dites que Beaumarchais est l'aventurier de la liberté, la voile aussi, la navigation,
c'est la liberté. C'est la liberté, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route préétablie.
À voile, on ne va pas forcément toujours où on veut. Il y a aussi là où le vent vous mène.
Attends, les livres non plus, je vais vous dire. Parce que les livres, il y a des livres qui arrivent comme ça, puis d'autres qui se refusent complètement. Donc, c'est vraiment, vraiment la même chose. Et puis, j'étais encore en train de naviguer il n'y a pas longtemps. Et donc, ce que j'aime bien, c'est le petit mouvement. C'est-à-dire, vous n'êtes jamais stable. Comme en amour, c'est toujours incertain.
Ça tangue.
Ouais. Et donc, quand...
Mais des fois, ça chavire.
Ça chavire.
On dessale.
Oui, ça, on dessale, ou on est dessalé. Ce qui est une bonne nouvelle en général. Et ça nous apprend des perspectives. Et puis, mais on est un peu en dehors de même. J'aime pas trop le confort, vous voyez. J'aime quand ça bouge tout le temps parce qu'on invente, on est là, on est en fragilité. J'aime bien la fragilité.
Alors, parlons de cet aventurier de la liberté, Beaumarchais, dont vous écrivez. Alors, est-ce que vous qualifieriez votre livre de biographie de Beaumarchais ou est-ce que c'est un roman autour de Beaumarchais puisque vous y mettez beaucoup de vous? Il y a beaucoup d'analogies avec notre siècle et des références même à votre vie personnelle puisque je parlais de ce pseudonyme au moment où vous expliquez comment il décide de s'appeler Beaumarchais à partir d'une terre, hein, c'est ça,
oui, terre,
du côté de Bordeaux.
Oui, oui.
Vous expliquez vous comment vous aviez demandé l'autorisation d'utiliser le nom d'un personnage, non, d'un village.
D'une ville, voilà. J'ai demandé à Julien Gracq, oui.
Exact. Donc il y a beaucoup de parallèles comme ça. Est-ce que c'est une bio, est-ce que c'est un roman?
C'est une promenade. C'est une promenade dans un personnage qui incarne un siècle. Donc c'est une double promenade. C'est un problème chez quelqu'un qui incarne tellement ce siècle formidable, ce siècle qui a inventé la liberté. Le 18e. C'est-à-dire avant, il y avait le poids du roi, chez nous Louis XIV. Il y avait le poids de l'Église extrêmement forte. Il y avait le poids de toutes les corporations. Il y avait le poids d'une science, d'un savoir complètement dominé par la pensée religieuse, etc., etc. Et brutalement, comme une sorte d'adolescence, il y a une sorte d'ivresse de la liberté dans tous les domaines. Et alors, ce qui est
dans tous les pays, puisqu'on parle des États-Unis,
c'est une sorte de gigantesque. Vous étiez pas né, mais gigantesque mai 68. Brutalement dit, c'est pas possible. On a envie de tout envoyer comme ça. Et voilà. Pourquoi? Et pourquoi pas? Et
alors, Beaumarchais au milieu de tout ça.
Et justement, ouais. Répond à la question. C'est pas pour moi. Mais si, c'est pour moi. Le savoir est pour moi. L'entreprise est pour moi. La science est pour moi. La liberté, c'est pour moi. Vous voyez, on peut ça. Et la dame du voisin, elle peut être aussi pour moi.
Alors, quels ont été les moteurs de Beaumarchais? Oui, il respecte pas son voisin, écoute, c'est comme ça. Quels ont été les moteurs de Beaumarchais? Est-ce que c'était la réussite, l'argent, les femmes, la reconnaissance?
Tout. Pourquoi avoir une seule motivation? C'est-à-dire, le point de départ, moi, ce qui m'intéresse bien, c'est d'essayer de trouver les lieux. Parce que moi, si j'en résume, je suis plutôt géographe, c'est-à-dire les lieux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que Beaumarchais, un siècle plus tard, naît à 200 mètres de l'endroit où naît Molière. Et donc, on a les deux grands écrivains de théâtre
qui
sont le quartier des Halles, le cœur de Paris. Et donc, dès qu'il sort de chez lui, il est au milieu du théâtre. Il est au milieu du théâtre de la vie. Avec tous les marchands, avec tous les gens qui viennent vendre, avec les puissants, les gens qui sont les mendiants, etc., etc.
Il avait des projets immobiliers formidables, puisqu'il est au cœur de l'actualité aussi, puisqu'il achète un terrain et une maison à côté de la Bastille, même que la Révolution n'explose.
Alors là, bien plus tard, parce que le mec...
Ça s'appelle avoir du nez, quand même. Je vais habiter où? À la Bastille. C'est pas la Révolution. Juste. Dans une semaine, mais je vais me mettre là, quand même.
Non, mais s'il sort sur la Bastille, c'est quand même incroyable. Il a pas mal d'argent... parce qu'il a fait des trucs, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et il entend dire, en 1787, que l'administration pense détruire la prison de la Bastille parce que c'est mal placé. Il dit, formidable, il va y avoir une opération immobilière. Donc il achète un hectare, une partie de la place
dans
de
Paris.
La Bastille actuelle,
ouais.
Une partie de la place de la Bastille actuelle,
Saint-Antoine.
Et l'endroit où arrive le boulevard Beaumarchais actuel. Et il fait un palais, 10 millions d'euros, genre. Et... il fait, à peine c'est fini, il fait visiter en disant, voyez, c'est moi, c'est formidable. Il y a un côté tapis chez lui, comme ça, il fait marcher, machin, etc. Et puis, les travaux, ils sont finis quand? En avril 1789. Donc évidemment, en mai 1789, tout le monde envahit son truc, le détruit, tout ça, il va le retrouver 3 ans après. C'est lui.
Il va même essayer de le vendre à Bonaparte.
Il invente des trucs, ça dégringole. Et puis après, il repart. C'est le roi du rebond.
Alors, c'est Christian Clavier en Corse. Commençons
par le commencement. Horloger, inventeur et...
D'abord, il a des sœurs. Il a plein de sœurs.
4 sœurs.
Il a 4 sœurs qui l'adorent. Il est là, il est chéri. Donc, il y a une sorte de confiance absolue en lui. Le socle de la confiance, il y a ça. Et puis des parents, moi, j'ai essayé de trouver le résumé, de dire qu'est-ce que c'était ses parents. Et il y a des moments où on s'intéresse, parce que c'est ça l'écriture, c'est de résumer. Et en résumé, ses parents grondent peu. C'est-à-dire, ils laissent la bride un peu sur le cou. Il s'agit de bosser, mais ils laissent la bride sur le cou.
Ça va même plus loin. Ils font le sacrifice aussi de leur métier pour permettre la réussite de leur fils.
Après, mais au début, c'est ça. D'accord. Et c'est un endroit où on joue de la musique tout le temps, partout. Toutes les 4 sœurs et lui et puis les parents, tout le monde fait la musique un peu à l'allemande, vous savez, ce système. Ouais. Ça. Ce qui fait que un peu plus tard, quand il en aura marre d'être horloger, il va devenir quoi ? Maître de musique des filles du roi.
Et la harpe étant l'instrument à la mode très...
Alors, harpe, c'était formidable, vous voyez, parce que c'est
d'abord... Vous la décrivez comme un instrument sexuel, hein, la harpe.
C'est complètement.
c'est quand même compliqué à transporter une harpe, non ?
Mais c'est pas...
Oui, mais ça se caresse. Oui, mais ça caresse et ça permet des transports rares.
Ça laisse entrevoir...
Rares, parce que regardez comment... C'est vraiment... Enfin, je vous souhaite, mesdames, puisque les dames sont en majorité ici... Je vous souhaite d'être harpe.
Ou harpiste.
Non, harpe.
Ah, d'être joué. Ah, oui.
Oui, d'être joué.
Ah, ok.
Vous imaginez ce que c'est ?
Voilà. Reprends encore un peu d'eau, Marina, parce que là, elle est
en PLS, là.
Elle est
en apnée.
Non, mais l'harpe, c'est d'abord parce que c'est extrêmement
beau. Tu sais.
C'est extrêmement beau parce qu'il y a l'armature. Et l'armature, on peut très bien faire des peintures.
Des sculptures,
etc. C'est très beau. Et il se retrouve là. Non, mais c'est un personnage d'un culot incroyable, donc insupportable, de morgue, bien sûr. Mm-hmm. Mais il est là et il va... Imaginez qu'il est au début apprenti horloger chez son père.
Non, il crée un mécanisme. Oui, mais il explique.
En étant horloger, c'est son.
J'entends. Mais surtout, c'est le point de départ de tout ça. C'est, enfin, à mes yeux, en tout cas, c'est qu'il a une création. Il a peur de se faire voler son invention. Il communique beaucoup et il parle et il demande des conseils. Et celui qui lui dit, fais gaffe, les idées ne se protègent pas, on peut se les faire voler. Bah, c'est justement celui qui va lui voler l'idée et auprès du roi ou de la cour, en tout cas, présenter cette invention. Et Beaumarchais, qui n'était pas Beaumarchais d'ailleurs à l'époque, va se battre et aller jusqu'au procès, au tribunal, pour revendiquer la paternité de son invention d'échappement pour réguler les montres.
Il a 18 ans, il est donc apprenti, alors l'immense arrive.
L'immense Daniel Morin, discrètement.
Il arrive.
Pas
très
un bruit.
On a ouvert mon micro.
La conférence de presse s'est bien passée.
Oui, ça a été.
J'espère que t'es payé pour ça.
Une fortune.
Bon, ça va alors.
Tu imagines, Nagui.
Vous disiez.
Tu connais les tarifs.
Non, on voit la tranquillité de l'homme riche, là.
On disait, Eric, il a 18 ans.
Donc, il a 18 ans. Il invente un mécanisme. Il est encore apprenti. Il invente un mécanisme, comme dit Nagui, qui s'appelle l'échappement, un mécanisme. Et il y a quelqu'un qui vient très, très important, parce que c'est le principal horloger du royaume, c'est l'horloger du roi. Il lui explique le mécanisme. Le type lui dit, fais attention, on va te le piquer. Et le mec qui lui dit « on va te le piquer », il lui pique le mécanisme en disant « c'est moi qui l'ai fait ».
C'est ça.
Alors, son père lui dit « calme-toi, il est trop puissant, etc. » Pas du tout, il a 18 ans, il envoie des libelles partout en disant « c'est moi qui ai trouvé », et il gagne. À 18 ans et demi, qu'on trouve.
Il prouve documents à l'appui et il démontre que c'est lui qui en est l'inventeur. Alors, ce qui est assez frappant, c'est que sa carrière, c'est une espèce de parenthèse aussi dans la reconnaissance, que ce soit dans cette invention de la montre au tout début ou dans la création des sociétés d'auteurs d'œuvres dramatiques, puisqu'il veut défendre le droit d'auteur à la fin de sa vie aussi, en disant, réunissant, ce qui n'est pas une mince affaire, en réunissant une 20aine d'auteurs, en disant, nous devons protéger nos œuvres et devenir non pas les rentiers de notre création, mais en tout cas ceux qui en vivent le mieux, ce qui n'était pas le cas à l'époque, c'était plutôt les comédiens qui faisaient la pluie et le beau temps des œuvres de théâtre ou des opéras.
Alors, cette histoire est d'autant plus intéressante qu'il est le seul parmi les auteurs à ne pas avoir besoin d'argent. Puisqu'il gagne l'argent autrement, en étant
Donc on le soupçonne de rien dans cette idée-là.
Du tout. Et alors il réunit les auteurs, donc c'est extrêmement compliqué de réunir les auteurs, on le sait. Donc il fait ça, et il se bat. Et pendant la Révolution, en 1791, il y a le principe du droit d'auteur qui est reconnu. Et donc on lui doit ce principe du droit d'auteur. D'ailleurs, à Paris, à la Société des auteurs, c'est placé sous le haut patronage vraiment de Beaumarchais, qui a inventé les auteurs. Et s'il m'amuse... toujours m'intéresse dans une biographie, c'est que la question posée au XVIIIe siècle est exactement la question qui est posée ici, chez nous. C'est-à-dire que la manière dont se comportaient les comédiens, notamment la comédie française, ils piquaient les textes et puis ils donnaient de temps en temps, quand ils voulaient, un peu d'argent aux auteurs qui vivaient et mouraient pauvres. Corneille, en dépit de tous ses succès, vivait dans la misère. Donc, on se trouve dans la situation actuelle où les plateformes piquent les inventions
ne payent pas les droits d'auteur.
Donc, c'est ça qui m'intéresse.
Déjà, ils ne payent pas les impôts, mais ils ne payent pas les droits d'auteur.
Oui, on pense qu'on a gagné, on pense que c'est différent. En fait, c'est exactement la même chose. Donc, la bataille doit être sans arrêt menée.
C'est ça qui
m'intéresse. Ouais. Vous voyez, le 18e nous parle d'aujourd'hui.
Non seulement c'est intéressant, mais c'est passionnant. Et en effet, il y a un écho entre ce qui s'est passé au 18e et ce qui se passe aujourd'hui. Vous servez beaucoup de ces allers-retours, de ces parallèles. Ça s'appelle Beaumarchais, un aventurier de la liberté. On va continuer d'en parler. Évidemment, c'est publié chez Stock. Tom Villa va faire l'interview d'Éric Orsenna. Ne vous inquiétez pas, Éric Orsenna. Tom Villa a les questions et les réponses. Voici Tom Villa.
Comment allez-vous, Eric ? Ça va ? Bienvenue, merci d'être chez nous plutôt que dans les autres émissions de la station, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir dans la bande originale plutôt que, je sais pas, dans Boomerang, chez Augustin Trattenard ?
La culture, c'est pas pour moi.
Ah bah parfait, pas de non plus. Alors bienvenue. Hein. En tout cas, très heureux. Je vois si vous connaissez Nagui.
Il paraît qu'il pique des très grosses colères, j'imagine très froides, et j'imagine extrêmement méchantes parce qu'il sait dire les mots.
Ah bah oui, vous le connaissez,
c'est ça.
Vous regardez, N'oubliez pas les paroles.
C'est insupportable, insupportable, il se trouve.
Ouais, moi, il se trouve quand même que c'est mon patron, donc mesurez vos mots quand même. Alors, pourquoi vous êtes autant en colère contre Nagui ? Je sais pas, vous lui reprochez quoi ?
De pas avoir de talent musical.
Ah oui, mais ça, il le sait, Non mais en vrai, qu'est-ce que vous lui reprochez ?
Mettre des chaussures qui font mal.
Ah, bah ça, je vous le fais pas dire. Alors là, vous revenez avec un nouveau livre sur Beaumarchais, vous qui avez bien travaillé sur sa vie, donc on l'a dit, il a été auteur, inventeur. Quel autre secret inavouable sur Beaumarchais vous pouvez nous confier ?
C'est un imitateur hors pair.
Ah oui, d'accord.
Je savais pas.
Imiter qui, Beaumarchais ?
Jules César, Louis XIV, Bonaparte ou Laurent Fabius.
Ah oui. Ouais, ouais, imiter Laurent Fabius et Bonaparte, d'accord. Bon, tiens, juste, il y a une rumeur qui court comme quoi l'Académie française, ça rigole beaucoup. Vous voulez pas nous raconter une petite blague d'académicien hein ?
La différence entre un livre et autre chose.
Ah, c'est une blague d'académicien. La différence entre un livre et autre chose, non, je l'ai pas, allez-y. Hein.
Le livre. Quand on a un livre, on lit le même livre. Mmh. En fait, on lit pas le même livre.
Ouais, ça va être compliqué. Alors, juste, j'en profite de vous avoir sous la main, Eric, parce que l'année dernière, vous avez fait un grand tour de France de toutes les bibliothèques. C'est pas trop chiant, une bibliothèque ? Non, enfin, ce que je veux dire, c'est quand on en a vu une, on les a toutes vues.
Les bibliothèques ne sont pas seulement les lieux de livres, contrairement à leur nom. Les bibliothèques, c'est des lieux de vie. C'est des lieux de rencontres.
C'est pas vrai. Ça drague dans les bibliothèques, Eric Orsenna. Oui. Vous avez fait des rencontres sympas ?
Trois ou quatre, donc il y a toujours un taux de gentillesse très agréable.
Voilà, 3-4. Je sens que vous êtes très modeste. C'est quoi le vrai chiffre ?
10 000.
Ah ouais ! Ah, j'avoue ! Voilà. Je suis sûr que... Ah, ouais, non, 10 000 Pardon, je vous ai coupé, pardon.
Ces chiffres, il faut les compléter par à peu près 90 000 bénévoles.
Ah ouais, alors je suis pas bon en maths, mais ça fait 100 000, c'est énorme.
Les préservatifs, j'en ai utilisé énormément.
Je me doute.
Un incroyable gâchis.
Oui, oui, enfin, bon, c'est bien de se protéger, mais comment on arrive à tel chiffre ?
Je trie pas encore assez bien.
Oui, enfin là, 100 000, c'est incroyable. C'est quoi votre secret de séduction ?
Dans notre famille, on l'a énorme.
Oui, bah, garde un petit peu de mystère quand même.
Je suis souvent nu, ce qui bouleverse les populations.
Allez, j'arrête de vous poser des questions. Merci en tout cas. Et n'oubliez pas que vous aurez beau dire des choses intelligentes, et ben moi je vous ferai tout. Je vous dire n'importe quoi.
Merci, Damien.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Donc on sent bien que le sexe est un sujet qui vous travaille et qui a travaillé Beaumarchais. Il a, et j'ai découvert un mot, Gerluchonner. C'est ça?
Oui.
Gerluchonner. Gerluchonner. C'est
alors, faire, j'ai appris parce que moi,
faire l'amour moyennement argent?
Ça dépend de façon infidèle aussi, ça dépend. En tout cas, c'est un mot magnifique. Et comme mon métier d'académicien, c'est de remettre sur le marché des mots complètement oubliés, j'espère que maintenant, on va dire garluchonner au lieu de ce terme faire l'amour, qui est ce que je trouve ça. D'abord, c'est super prétentieux de dire l'amour et faire. C'est deux contradictoires.
Ne regardez pas comme ça.
Mais c'est gênant.
Mais attendez,
comme on disait, les regrets, faute de remords.
je croyais que garluchonner était forcément l'amour monnayé, Eric.
Oui, globalement oui.
Donc on peut pas le remplacer par garluchonner.
Non, c'est aussi.
Moi, je voyais plutôt le côté micheton.
Non, pas du tout. Le garluchon, c'est de manière générale, c'est l'amant d'une femme mariée. Donc, le garluchon, c'est l'amant d'une femme mariée.
D'accord.
Un gigolo. Mais
s'il est entretenu, c'est un gigolo.
Oui, mais c'est un peu banal. Alors que l'amant d'une femme mariée, c'est plus répandu.
Non, c'est pas ça, c'est ma question. Ma question, c'était est-ce que Beaumarchais se faisait entretenir?
Pas du tout.
Non, en revanche, il se mariait si la partie adverse avait quelques...
Un peu de bien.
Non, parce que l'argent était son moteur. Vous dites qu'il était riche. À la fin de sa vie, il était riche, mais il n'a pas eu que des moments de tranquillité
Alors, il aimait l'argent parce qu'il aimait ce confort. Et alors, il aimait l'argent aussi pour une raison précise, c'est qu'il adorait sa famille. Et qu'il a été infidèle à des tas de choses, à des tas de gens, mais il adorait sa famille. Donc sa famille, il voulait bien l'installer et bien lui venir en aide. Donc c'est pour ça qu'il a acheté une maison incroyable, qu'on peut d'ailleurs voir, puisque c'est le siège du Mercure de France, comme ça, rue de Condé, qui est un petit hôtel magnifique où tout le monde était là, avec son père, tout ça, etc. Et ses sœurs qui n'étaient pas mariées, elles étaient là. Donc il aimait ça. Mais il aimait aussi, dans l'argent, l'entreprise. C'est-à-dire ce qui fait rentrer dans des univers particuliers. Et puis, souvent, il se plantait. Il s'est planté avec son opération immobilière de la Bastille, comme on a vu, mais il s'est énormément planté avec les États-Unis.
Les ventes d'armes?
Mais les États-Unis. Parce que les États-Unis, c'était incroyable. Par conviction, il était pour la liberté. Donc, il soutenait ceux qui étaient en révolte contre le colonisateur anglais. Et donc, comme la France ne voulait pas affronter la grande puissance anglaise, c'est lui qui s'était chargé de défendre bien plus que Lafayette les révoltés américains. Donc,
en montant une société privée pour éviter que ce soit des bateaux français ou espagnols qui soient privés. Repérés.
Ouais. Et alors lui, qui n'avait jamais vu la mer de sa vie, il est armateur de 40 bateaux qu'il envoie aux États-Unis, plein d'armes, d'uniformes, de trucs comme ça. Alors il dit, bon, vous n'avez pas d'argent pour l'instant les Américains, vous allez bien me payer au retour. Mais en maïs, en trucs comme ça, etc. Et puis, dès qu'ils sont indépendants, les Américains, ils disent, on a complètement oublié, ah bon, on avait promis quelque chose, donc il est complètement ruiné. Donc il faut savoir aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique, et donc j'envoie un tweet dans 2 heures à Donald pour lui dire, rends le pognon à Pierre-Augustin Caron.
Très bien.
J'ai pas voulu gêner le sommet de Biarritz.
C'est gentil.
Mais j'attaque juste après.
Très bien. Eric Orsena signe donc Beaumarchais, un aventurier de la liberté chez Stock. Voici Maria.
Bonjour les amis, je suis ravie d'être venue. Tout le monde a l'air bien reposé, heureux. Même le studio a l'air toujours très rouge. Moi cet été, j'ai pris l'avion, je sais c'est mal, mais donc j'ai voulu recycler ce geste polluant en tirant une chronique parce que je me suis rendu compte, en déambulant devant les boutiques de luxe de l'aéroport, que bon, déjà pourquoi il y a des boutiques de luxe à l'aéroport? Qui part rendre visite à sa tante et se promène avant le vol en se disant qu'est-ce que je pourrais lui amener qui lui ferait plaisir? Peut-être une boule à neige ou une Malle Vuitton. Voilà, un des deux. Mais bref, en déambulant comme ça parmi les enseignes de luxe, je me suis rendu compte que globalement, toutes les nanas qu'on voit sur des pubs pour des sacs à 5000 euros, elles ont l'air d'avoir 16 ans. Alors je sais pas si j'ai loupé des très beaux filons de babysitting, mais on est d'accord que c'est compliqué de se payer un sac Chanel avec ses économies à 17 ans, non? Alors on pourrait se dire, évidemment c'est pas réaliste, c'est des pubs. Oui mais c'est pas anodin les pubs, les gens qu'on voit en affiche toute l'année, on a beau être maligne, inconsciemment on veut leur ressembler, c'est prescriptif, la pub c'est une manière de nous dire voilà comment il faut vivre. Moi personnellement je le ressens dans plein de petits gestes du quotidien. Moi parfois quand je range mon linge propre, bah, j'ai envie de presser mon nez dans mes serviettes de bain. Comme dans les pubs, tu sais, la dame sur son îlot de cuisine qui sniffe son linge comme ça, elle a l'air tellement heureuse. Moi, aussi, j'ai envie de sniffer mon linge. Ou de me frotter dans un pull en laine comme ça, parce que je l'ai lavé avec une lessive très douce, et de regarder mes enfants jouer par la fenêtre, alors que j'habite au 5e et j'ai pas d'enfants, mais j'ai envie de faire comme dans la pub. La pub crée une réalité dans laquelle, que tu le veuilles ou non, tu te projettes. Et donc la question, c'est dans les pubs de marques de luxe, c'est quoi la vie qu'on te décrit? Cette jeune femme, à peine majeure, qui a 20 000 euros de fringues sur elle. Quelle est son histoire? On est curieux. Alors la première solution, c'est son mec ou ses parents qui lui ont offert. Donc c'est pas une pub pour un sac, c'est une pub qui te dit, c'est quand même vachement cool de se faire entretenir. Certes, mais on savait déjà, non? Enfin, quitte à enfoncer des portes ouvertes, pourquoi le faire de manière subtile? C'est trop fin l'affiche. Pourquoi on met pas directement des vendeuses devant les boutiques de luxe qui, quand tu passes devant, te jetteraient des épluchures dessus en disant « Stop being poor !» Mais... Et puis quitte à admettre qu'elle peut pas se payer seule et que c'est un cadeau, on devrait inclure les gens qui vont l'acheter sur l'affiche. Il y a la fille avec le sac et à côté il y a le fiancé, pété de thunes. Et le slogan dessous, c'est « Si vous voulez une partenaire sexuelle régulière et un faire-valoir en société mais que vous n'êtes pas prêt en contrepartie à donner du temps, de l'attention et de l'affection, Dior. » Ça fait des grandes affiches, quoi.
C'est original.
C'est génial.
On s'arrête pour la lire, en tout cas.
Ouais. Bref, le premier récit possible derrière ces pubs, c'est que la jeune fille en photo, elle ne se l'est pas payée seule, son sac. Le deuxième récit possible, c'est qu'elle n'a pas 16 ans, même si elle a l'air d'avoir 16 ans. Et donc, en substance, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui va bien avec ce sac, c'est une jeune fille de 16 ans. Donc, si tu veux ce sac, tu devrais avoir l'air d'avoir 16 ans, même si tu n'as pas 16 ans. Donc, tout à coup, tu comprends le prix du sac, puisque ce n'est plus un sac, c'est une machine à voyager dans le temps. C'est une DeLorean en cuir grainé, c'est merveilleux. Alors, on pourrait se dire, c'est le problème de la société de consommation en général, mais la forme, elle est quand même beaucoup plus violente dans les produits qui s'adressent aux femmes. Parce que sur les pubs pour des montres de luxe pour hommes ou des bagnoles à 400 000 euros, jamais c'est un minet de 18 ans qui fait une pose déglinguée, on dirait qu'il s'est foulé une cheville comme ça avec les yeux vides, tu te demandes s'il s'est compté jusqu'à 10, tu vois. Non, toujours non, c'est
enfin,
un gars.
Il a des abdos.
Il a des abdos, mais il a 45 ans, il a les cheveux de riche comme ça, un peu crantés, c'est la cible, quoi. Alors idéalement, évidemment, un jour, le capitalisme tombera, on sera dans une civilisation qui aura dépassé la notion de possession matérielle, tout le monde vivra en harmonie, en s'échangeant des topinambours contre des paniers tissés, ce sera très beau. Mais entre-temps, s'il vous plaît, quitte à faire des affiches pour des sacs trop chers, montrez-moi une PDG de 48 ans, montrez-moi une médecin qui a fait 15 ans d'études, montrez-moi une vieille tirée qui a survécu à 3 maris. Des gens qui ont mérité le sac. Arrêtez de nous vendre des produits pour petites filles millionnaires. Et d'ici là, si quelqu'un veut m'offrir un sac, moi je prendrai un Céline, s'il vous plaît.
Maggie. La bande originale. Et ce qui est génial, c'est qu'on retrouve Marina Rollman dès le 24 septembre, le mardi et le mercredi, c'est au Théâtre de l'Œuvre.
Oui, absolument, oui. On se réjouit.
C'est vrai que c'est génial.
La bande originale d'Éric Orsenna, alors déjà, elle est très musicale. Votre histoire de Beaumarchais, il y a beaucoup de musique, évidemment. Il y a des compositeurs, il y a du Mozart, du Salieri, on va en parler tout à l'heure, mais la musique était présente dans votre vie et pas uniquement quand vous êtes mis au piano il y a quelques semaines. En 1974, vous écoutiez par exemple Claude François. Ça vous renvoie à quelles images cette chanson?
Alors, mais comment tu connais l'hôtel de la plage, toi?
Toi aussi, tu viens à Mandelieu?
Oui.
C'est la petite fille, en fait.
Et pourquoi maman?
C'est très gênant ce qui se passe là. C'est très très gênant.
Non, mais moi, je suis fou de ça parce que je suis fou de chansons. C'est-à-dire, comme vous venez de le montrer avec une chronique de 3 minutes, on est en plein dans le portrait de notre société. Et là, une chanson, 3 minutes, c'est un roman. Et là, on a tout. On a la petite fille, tout ça, c'est un... Regardez, écoutez-la, là. Écoutez-la.
Tais-toi, sainte Maxime.
Ben voilà, c'est ça, et je pleure à chaque fois.
Téléphone pleure et de dire « je pleure à chaque fois », quand on vous a demandé quelle musique vous vouliez en 74, vous avez dit la chanson de Claude François, « Le téléphone sonne », qui est l'émission de France Inter. Hein, ça n'a rien à voir avec le téléphone pleure.
Non mais je suis toujours, moi j'ai
vous êtes très corporate.
Je suis assez corporate. et voilà. Et le souvenir n'empêche pas l'habileté.
Et 74, Éric Orsenna, c'est un peu la théorie du « en même temps ». Vous publiez votre premier roman et vous devenez docteur d'État en même temps.
Oui.
En même temps. Et ce premier roman publié, c'est pas le premier roman écrit. Vous en aviez écrit, je crois, plus d'une dizaine avant.
Oui.
Et vous rencontrez un éditeur.
Oui.
C'est votre 13e roman qui devient le premier publié, c'est ça?
Oui, c'est ça, parce que j'écrivais tout le temps, et puis, donc j'écrivais, et puis à la fin de l'été, je relisais, et c'était nul, donc je jetais. J'ai montré le 12e.
qui s'appelait Central Park, et heureusement il a été refusé. Et le 13e, je reçois, à l'époque il y avait des pneumatiques, et c'était Jean Cayrol qui était
le patron
littéraire du Seuil, et qui me fait venir. Alors j'avais dit à tout le monde, alors j'avais toujours caché que j'écrivais, j'avais dit à tout le monde que ça y est, j'étais accepté, parce qu'un pneumatique, et il m'a dit, j'espère que vous vous rendez compte que c'est très mauvais. Donc syncope, le SAMU de l'époque, etc., mais quasiment. Et puis je retravaille, et enfin il est publié, et donc et le 17e a eu le Goncourt. Donc
Et qu'est-ce qui fait, pardon, que on ne ferme pas son stylo au bout du 5e, 6e, 7e, 8e manuscrit refusé, ou le message d'un éditeur du Seuil? Qu'est-ce qui fait que vous êtes sûr de votre passion et de votre
plume? Parce que je ne peux pas faire autrement. Si vous voulez, si j'ai pas, j'écris tôt le matin, donc c'est la continuité de la nuit. Et si j'ai pas ce rassemblement, vous savez, c'est une sorte de recueillement. C'est pas une prière tout à fait laïque, mais vous vous recueillez. Vous savez, c'est comme la religion. Religion, l'origine, c'est recueillir et relier. Donc, si vous avez pas un mécanisme dans lequel vous vous reliez et vous recueillez un peu les éléments du monde, moi je deviens fou parce que j'ai trop d'envie, d'idées dans toutes sortes. Donc il y a une heure ou deux heures tous les matins. Alors si c'est pas publié, c'est pas grave. Et moi il y a des tas de textes que je fais qui sont absolument nuls et que je jette. Et puis de temps en temps, il y en a un qui...
Qui vous dit que c'est nul?
Moi. Et c'est ça.
Pourquoi vous l'avez écrit alors?
C'est parce que il fallait que ça sorte, le nul. Et puis petit, on voit là. Mais quand vous connaissez bien évidemment les musiciens, ils disent, pourquoi est-ce qu'on s'arrête de refaire une mélodie? Pourquoi est-ce qu'on arrête un arrangement? Parce qu'il y a des moments, c'est trop, ça devient trop. Mais à d'autres moments, c'est pas assez. Donc, il y a à la fois une exigence, et puis à un moment donné, il y a une sorte de confiance. Et puis, vous savez, c'était merveilleux. J'étais ami de Michel Legrand. Et alors, Michel Legrand, on le voyait, et il était sur son piano, et il avait une liberté complète comme ça. Et après, puisque ça fait plus de 60 ans que j'écris tous les jours, il y a des moments de liberté comme ça. Mmh. Et ça, il y a un délice, mais la liberté, ça suffit pas. Donc, on se dit, on va un peu continuer. Et celui qui est, entre mille guillemets, un artiste, c'est celui qui arrête la sculpture à un moment donné. Comprenez, qui dit que voilà, ça suffit. Et il va pas remettre une couleur, à un moment donné, ça s'arrête. Donc c'est assez mystérieux, mais je peux pas faire autrement. Je ne pourrais pas faire qu'écrire. Mais si j'écris pas, moi je suis complètement explosé.
Et est-ce que la source parfois peut se tarir?
Non, parce qu'il y a autre chose. Il y a sans arrêt j'ai cette chance d'avoir des écritures complètement différentes. Il peut y avoir des contes, comme j'ai fait sur la grammaire, qui sont complètement différents. Il y a des sortes de promenades dans la biographie. J'ai fini un gros roman d'amour qui sort chez Gallimard au mois de janvier. Il peut y avoir des essais. En ce moment, je fais une enquête mondiale sur le cochon. Donc, comme il y a 1 milliard de cochons qui sont élevés chaque année dans le monde, la source, elle n'est pas tarie. Elle est un peu puante de temps en temps, mais elle n'est pas tarie.
Non, donc, le cochon, non, voyez, non, je suis désolé, le cochon est très propre.
Non, mais il est propre. Mais comme on le traite mal,
ah oui.
Comprenez, c'est ça l'affaire.
Il n'y a jamais eu de moment de lassitude, de fatigue, d'incapacité à écrire, parce qu'écrire tous les matins comme ça.
Non,
après, la production, elle est de la qualité que oui. Vous estimez plus ou moins bonne, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit, tiens, je suis vidé?
Non. Non, parce que si vous voulez, je ne sais pas qui je suis. Pour dire je suis vidé, il faudrait que je m'intéresse à moi. Mmh. Et moi, je ne m'intéresse pas du tout. Moi, je suis rempli par les autres. Je ne suis rien que les autres.
Et comment on sent un bon sujet alors quand on est...
Parce que...
C'est quoi votre intuition à vous là-dessus?
L'intuition, c'est la sorte de concentration d'un personnage et d'un lieu. Mmh. C'est pour ça que, au fond, l'envie...
La matière, en fait.
Oui, mais ouais. Le moment... C'est-à-dire... dès que j'ai su que Beaumarchais, il y avait 4 sœurs et c'était au cœur de Paris et que c'était tout près de chez Molière, je dis, oh là,
ça sent bon, ça sent
là,
bon.
Y a un
c'est
truc.
C'est marrant que le lieu est autant
géographique.
Ouais, c'est un
géographe. Le lieu est autant géographique.
Ouais, c'est ça. Vous savez, la géographie. Parce qu'on a, vous savez, nous, on a regardé en classe, on apprend plus l'histoire que. Mmh. La géographie, avec une sorte de prétention.
Qui est un peu même le parent pauvre des professeurs d'histoire géo, qui préfèrent l'histoire que la géo.
L'histoire, c'est les hommes historiques, etc. Mais les fleuves, mais les banquises, les forêts qui sont en train de brûler, ça, c'est des personnages gigantesques aussi.
En 1988, vous écoutiez... Et tiens. Oh, tiens bien. Ça garluchonne aussi. musicienne, Gesh Patti.
Ouais, c'était. Alors, elle est formidable.
Très sexy.
Elle est danseuse.
Ouais.
Elle est danseuse, donc c'est.
Danseuse,
c'est,
chorégraphe.
Et puis, danseuse, chorégraphe, ouais. Et on sent vraiment ce rythme-là. Et puis, je connais un type qui s'appelait Étienne. Il n'avait jamais rien emballé de sa vie. Et après, ça a été hallucinant. Donc, moi, c'est un salut à Étienne, quoi.
On est en 88, Eric. Et vous recevez le prix Goncourt pour l'exposition coloniale. Vous avez mis 8 ans. À écrire ce livre. Je crois que c'est quoi, le cinquième publié ?
Oui, oui, c'était le quatrième publié. Et j'ai un souvenir triste, puisque c'était mon éditeur Jean-Marc Omer. J'avais mis 7 ans et donc il n'avait rien vu. Et je lui remets un gros manuscrit. Et il m'appelle 2 jours après en me disant « Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. » Alors j'ai dit « Tu commences par la mauvaise. » Il dit « C'est comme la bonne. Silence. Tu peux faire mieux. » Donc, week-end, rien. Et j'ai tout réécrit. Tout réécrit. Et donc, mais moi, j'aime bien l'obstination, vous voyez, parce que c'est le côté aussi marin.
Non, mais pardon, tu peux faire mieux. D'abord, tout le monde peut se le dire pour tous les métiers du monde et pour tous les arts possibles et imaginables. Quelle est la définition du mieux ? C'est-à-dire quoi, tu peux faire mieux ?
Il sent bien, on sent qu'on y sent. Et ça, c'est l'éditeur. Moi, je n'ai pas besoin d'un imprimeur. J'ai besoin de quelqu'un qui... et suffisamment d'intelligence et de générosité
dans le lecteur, alors.
Pour s'oublier lui-même, pour voir quel est mon projet et pour m'aider à aller au bout du projet. Je me souviens d'un truc avec Eric Nolo, On n'est pas couché. Alors il dit « Ah, votre livre est raté ». Alors je dis « Pourquoi il est raté ?» Parce qu'on aurait pu faire un autre livre. C'est pour ça qu'Eric Nolo est notamment un très mauvais éditeur. C'est qu'il demande des autres des livres que lui n'est pas capable de faire. Jean-Marc, il faisait ses livres et en même temps, il était à la disposition en disant « Tu n'as pas été au bout. »
Ça veut dire qu'il vous donnait des indications un peu plus précises.
Non, mais il disait « Là, c'est comme ça, tu n'as pas osé, pourquoi tu n'as pas raconté, ça c'est bavard, ça c'est comme ça. » Mais de manière générale, et c'est ça ce que j'attends.
Et c'est-à-dire, qui fait ça aujourd'hui pour vous ?
Un éditeur, mais même maintenant. Je veux dire, j'ai fait 60 livres. Et un éditeur, c'est vraiment quelqu'un qui me dit « Là !» Et puis là, avec Beaumarchais, Alice Dandinier, on a été, elle m'a dit « Là, mais regarde, t'as pas peut-être donné assez justement à la géographie du quartier. Pourquoi ?» Parce qu'elle est extraordinaire, elle a été éditrice de Houellebecq, elle sait comment ça se passe. Donc, c'est juste une indication. Ils écrivent pas du tout à notre place. Simplement, ils disent « Est-ce que t'as été un... plus loin, comme on voit des gens, c'est ça l'amitié aussi.
Mais justement, si vous avez confiance aux certains éditeurs, pourquoi est-ce que vous ne leur présentez pas ce que vous n'osez pas présenter d'habitude ? Peut-être qu'ils pourraient trouver l'angle qui pourrait vous intéresser et là vous donner l'idée de faire « Ah oui, celui-là, je vais pouvoir l'approfondir dans cette direction et le présenter à publier. » Ouais, même ce que vous ne présentez pas du tout.
Je présente tout.
Ah, maintenant vous présentez tout.
Non, mais je présente des projets, on parle de projets et puis on dit « Tiens, le ton comme la musique. » C'est-à-dire, je leur donne... une page ou 10 pages en ce moment, par exemple.
Un synopsis, quoi. C'est une note d'intention.
L'art, c'est pas des idées. C'est pour ça que j'ai du mal avec l'art moderne, les installations. C'est-à-dire, pour moi, l'art, c'est pas du concept. C'est la réalisation d'idées. Une idée, c'est rien. Tout le monde a des idées. Mais c'est le ton. Et l'écriture, c'est le ton. J'ai été 10 ans, enfin, j'étais 5 ans éditeur, et c'est le ton. On voit le brutalement. Vous voyez, c'était les premières phrases qu'on peut imaginer, les grandes premières phrases. Brutalement, on voit le ton. Donc, ils me disent, tiens, ce ton, oui, pourquoi pas. Et puis, après, on vient. Et alors, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est qu'on peut ne pas réussir à un moment donné. Et puis, 10 ans après, on revient. C'est-à-dire, le livre qui a eu le Goncourt, j'avais commencé. Et puis, c'était pas bon. Et j'ai fait 2 autres livres, et puis j'y suis revenu. C'est-à-dire, c'est comme le parcours des eaux, vous savez, la résurgence, comme ça, ça disparaît dans des grands parcours.
Et ça crée, ça crée du courant et de la forêt.
Calcaire, et hop, ça revient, et c'est le moment. Comme en amour, il y a des moments où on rate des rendez-vous, parce que c'est pas le moment, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et puis ça revient.
Et bien là, figurez-vous.
Moi, j'en ai enterré des rendez-vous, j'attends qu'ils ressortent à la surface. Et là,
je suis très optimiste, monsieur Daniel.
Non, c'est gentil, figurez-vous, merci beaucoup. Que c'est le moment d'Anne-Marie.
Oui. D'ailleurs, il y a une Marie-Martine qui me dit qu'elle espère bien vous voir demain.
Voilà. Ah, très bien, écoutez.
La fameuse.
On ira ensemble.
Anne-Marie, bonjour. Anne-Marie Vaillant, merci de venir à ce micro. Vous êtes présidente du groupe régional Île-de-France de l'Association des bibliothécaires de France et directrice adjointe de la bibliothèque André Malraux à Paris. Combien de bibliothèques d'ailleurs y a-t-il en France publique ?
Il y a environ 7700 bibliothèques. Avec des... Le chiffre peut être étendu à 16 000 pour les points lecture. Et on ne compte pas les bibliothèques universitaires.
À partir de combien d'ouvrages on peut appeler ça une bibliothèque? Parce que c'est, ça commence à deux livres, une bibliothèque, voilà. C'est vrai? Vraiment?
La bibliothèque, ouais. C'est pas seulement des ouvrages, hein, c'est des services, c'est de la musique, c'est du prêt d'instruments de musique, c'est quelque chose qui s'est beaucoup, beaucoup étendu. Je pense que M. Orsena pourrait être d'accord avec moi. On a beaucoup de services numériques. Voilà. Donc une bibliothèque, ça peut effectivement commencer à deux ouvrages, ça peut commencer à 20 mètres carrés, ça peut aller jusqu'à 3000 mètres carrés, 15 000.
Puisque vous parlez du numérique, est-ce que le numérique ne tue pas les bibliothèques? Est-ce qu'on se dit finalement, si je veux un livre, bah, je peux aller le louer ou le télécharger en PDF sur ma tablette et je ne suis pas obligé d'aller remplir une fiche à bibliothèque et...
On ne remplit plus de fiches.
Ouais, on a une carte.
Bon, allez, non,
mais, bon, mais en même temps, je trouve que c'est dommage. Moi, j'adorais remplir les fiches et j'adorais surtout emprunter des livres et savoir qui l'a emprunté
avec
avant
le petit tampon.
Mais maintenant, en effet, c'est des cartes. Voilà,
il y a des cartes. Le numérique en bibliothèque, c'est pas seulement du numérique écrit.
C'est un ennemi ou c'est un ami, le numérique pour la bibliothèque?
C'est un média. C'est le média d'une information et l'information, ce sont les bibliothécaires qui l'accompagnent.
Et le rôle du bibliothécaire, c'est d'être prescripteur aussi, de conseiller, de dire vous devriez lire tel ou tel ouvrage si vous avez aimé tel auteur, ou c'est vous recherchez telle information, voilà ce que je vous conseille.
Oui, l'accompagnement, la prescription non, l'accompagnement oui.
La différence, pardon?
La différence, c'est qu'il n'y a pas on n'impose pas un choix. On cherche à accompagner la personne qui est en face de nous dans ses propres choix.
Je
ne voulais
pas la prescription comme étant une figure imposée, mais si c'est le cas, pardon.
Alors, peut-être que c'est une vision du métier.
Vous savez quoi, je vais me plonger en dictionnaire pour regarder.
Vous avez peur parce que Nagui, la tolérance, c'est un truc qu'il connaît bien. Je suis très étonné.
Quel est le souci majeur des bibliothèques? C'est le financement, ce sont les horaires d'ouverture, c'est l'honnêteté de celui qui emprunte de rapporter le livre, c'est le respect de ce qui s'y trouve. Quel est votre combat aujourd'hui?
Alors, le souci majeur des bibliothèques, c'est de pouvoir ouvrir plus.
Est-ce que justement l'intervention d'Éric Orsena, qui a été désigné comme ambassadeur par la ministre de la Culture, c'était Françoise Nyssen, est-ce que ça a apporté un peu de souffle aux bibliothèques françaises?
Alors non seulement ça a apporté du souffle, mais ça a apporté de la visibilité, oui. Ce dont on avait vraiment beaucoup besoin, merci. Parce que l'état des bibliothèques actuellement, c'est un état très très différent selon le territoire. Il y a beaucoup de bibliothèques très différentes, il y a beaucoup d'offres très différentes. On peut avoir des bibliothèques qui sont gérées par des bénévoles avec l'aide des bibliothèques départementales, et on peut avoir des énormes bibliothèques métropolitaines, ouais. Avec des réseaux très très importants et très très bien défendus. Et bon, c'est l'avantage de la mise en lumière et du rapport Orsena, c'est d'avoir, et voilà. Daniel Corbin, c'est d'avoir mis tout ça au milieu.
On a voulu vous inviter justement parce que, Éric Orsena, vous êtes ambassadeur de la lecture, hein, c'est un titre.
Moi, ce que j'ai découvert, c'est des lieux, donc 16 000, c'est le réseau de présence culturelle le plus important, juste après les cinémas. C'est des lieux où on se parle, c'est des lieux où toutes les générations sont réunies, ce qui est rare. C'est des lieux où il n'y a pas de hiérarchie entre les livres, les jeux, les choses comme ça, etc. Et c'est les lieux où on combat la maladie la plus terrible des sociétés, c'est pas pour moi. C'est-à-dire, le livre, c'est pas pour moi. La danse classique, c'est pas pour moi. La bataille pour la culture, c'est justement dire ça. Le c'est pas pour moi, mais si c'est pour vous. C'est pour chacun de nous.
Alors c'est quoi le problème? C'est une image vieillotte des bibliothèques en se
oui,
disant...
Oui, mais correspondant pas à la réalité.
Oui, non mais...
C'est-à-dire, donc... allez-y, vous allez voir ce que oui, c'est.
Il suffit d'y aller une
c'est
fois.
C'est l'inverse que... Il suffit d'y aller une fois, vous allez revenir. Comme, allez-y, vous allez voir. Vous allez voir comment vous
goûte,
allez être.
Goûte, ce qu'on dit aux enfants, goûte d'abord, après accueilli. Tu verras si tu aimes ou pas.
Évidemment, ouais. Et puis après, de toute façon, c'est un lieu de liberté. On peut y travailler, on peut y réfléchir, on peut y s'évader, on peut rencontrer, on peut... C'est un lieu de vie. Vous savez, il n'y a pas tellement de lieux de vie publique où on rassemble les gens, notamment en dehors des métropoles.
Parce que justement, puisqu'on parlait de la géographie tout à l'heure, est-ce qu'il y a des zones blanches culturelles de bibliothèques? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est un vrai manque?
Je sais que c'est un des chevaux de bataille d'Eric Corsena, qui est la désertification. Il y a une mauvaise répartition sur le territoire qui est liée aux collectivités territoriales.
Ouais.
Le fait que toutes les collectivités territoriales ne sont pas à même d'avoir une bibliothèque soit dans leur commune, soit dans leur communauté de communes. C'est quelque chose qui doit être pris en compte par le gouvernement, par l'État, pour aider à ouvrir plus.
Donc c'est le boulot d'Éric, ça.
Et ouvrir mieux.
Ouvrir plus et ouvrir mieux, c'est totalement votre boulot, Éric.
Ben, c'est mon boulot. C'est pour ça que juste après, exceptionnellement, j'ai une heure et demie à un terme, et après j'y retourne. Vous comprenez, c'est ça. Non, mais c'est un point.
Votre but, c'est quoi? C'est d'ouvrir de plus en plus de bibliothèques.
C'est ouvrir de plus en plus, mais rendre compte qui sont ces gens-là. Parce que il y a, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce métier magnifique des bibliothécaires qui est beaucoup plus large qu'on ne pense. C'est-à-dire, c'est à la fois le savoir irremplaçable et en même temps l'accueil. Et en même temps, il y a les bénévoles.
Ouais, faut pas
et c'est l'articulation
ouais,
c'est des
vrai,
deux. Mais les bénévoles remplaceront jamais les professionnels.
Merci Anne-Marie Vaillant d'être venue à ce micro. Tout à l'heure, vous parliez, Éric Orsena, vous disiez Brésil, pauvre Brésil. Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour.
Pauvre Brésil, oui, le président brésilien Bolsonaro, ça me fait déjà même du mal de prononcer son nom, a fait preuve de vulgarité.
Oui, alors jusqu'à présent, il était très élégant. Je ne comprends pas, c'est une déception. Bolsonaro, c'est ce monsieur qui, malgré un appendice sans doute classique, a la vie d'un castor, c'est-à-dire qu'il déforeste. Et hier, il s'est moqué de notre Brigitte. Pas bébé, BM, Bribri Macron. Et ça, c'est pas possible.
Ah non, ça c'est pas légal. Ah ça, c'est pas possible. On en reparle après les infos de midi. La bande originale. Bravo. Avec Léa Catherine, Marina Rollman, Daniel Morin.
Bonjour Marina.
Tanguy Bassureau, Tom Villa.
Bonjour.
Et notre invité, Éric Orsena.
Bravo.
Oui, il y a le mariage de Figaro, oui, il y a le barbier de Séville, et surtout Beaumarchais, au milieu de tout ça, qui était un homme qui cherchait d'abord les affaires, qui cherchait aussi l'amour, ou en tout cas la séduction, qui cherchait la reconnaissance de ses pairs, ou même des autorités, quel que soit le roi, quel que soit l'âge du roi aussi, parce qu'il s'attachait aussi à un roi, et quand un roi meurt et qu'un autre arrive beaucoup trop jeune, tous ces liens, toutes ces connexions, tous ces pistons entre guillemets, s'écroule. Pourquoi il a voulu devenir auteur, Beaumarchais? Parce que justement, vous rappeliez tout à l'heure que c'était pas le métier qui rapportait le plus.
Non, mais il voulait. Il était passionné par l'humanité. Encore une fois, je mets ça sur le compte de l'endroit où il est né, parce qu'il est au cœur de cette fourmilière. Il faut savoir que Paris à l'époque c'est la ville la plus importante d'Europe. Et qu'il y a tout un monde qui grouille là. Et il est fasciné par ce monde-là. Donc il veut raconter ça. Il y a une sorte de gaieté comme ça qui le prend. Et il raconte des scénettes.
Oui, mais qu'il va rater, qui ne seront pas bonnes.
C'est pas bon du tout.
Voilà.
Mais alors, c'est pas bon du tout. Et là, c'est l'ode au retravail dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a un culot total. Il a fait des pièces nulles. Mais il a dit, vous allez voir, celle que je prépare, elle est incroyable. Donc,
c'est un bon vendeur, quoi.
Ouais, bah, un bon vendeur, incroyable. Donc, il est à 19h, un jeudi, devant tout Paris, à la Comédie-Française, à l'endroit où il y a l'Odéon, et le rideau se lève sur le barbier de Séville. Au bout de 5 minutes, tout le monde baille. Au bout d'un quart d'heure, tout le monde siffle. Et le rideau se ferme, les critiques déferlent, en disant, s'il y a une chose sûre, jamais ce Beaumarchais ne fera une pièce seulement correcte. Il dit très bien, il s'enferme chez lui, et il va tout réécrire en 2 jours. Tout réécrire. Alors imaginez les comédiens qui disent « Mais il paraît que vous changez tout. » Oui, je change tout. Et comment on peut savoir? Ça fait rien. Et puis, à 17h, il se retrouve dans le même endroit, à l'Odéon. Le rideau s'ouvre et c'est triomphe du début jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment le retravail, c'est-à-dire, à la fois, il a un culot dément, mais quand le réel lui dit « c'est pas bon », il admet le réel,
Et il s'obstine.
Il en tient. Ouais. Il s'obstine, mais en même temps, il admet. C'est-à-dire, je ne suis pas le meilleur.
Oh bah quand même, pas... il a choisi son pseudonyme Beaumarchais parce qu'il y avait beau dedans et qu'en effet, il se trouvait beau. Et parce que
c'est factuel.
Oui,
il était beau.
Oui, mais il y a des gens qui s'autoproclament beaux et s'autoproclament géniaux, mais qui ne travaillent pas. C'est-à-dire, lui, il écoute le réel.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et quand ça ne marche pas, il change. Donc, il est immensément orgueilleux et garde son humilité face au réel. C'est ça qui est formidable.
C'est toute la différence avec Daniel Morin, en fait.
C'est ça.
C'est ça. Voici Tanguy Pastureau.
Gratuit. Ça fait.
Tanguy Pastureau, vous me faites dire que Brigitte Macron a 66 ans, et alors?
Oui, 110 de moins qu'Edouard Balladur. Et en fait, vous avez raison, on s'en fout, parce que là, c'est dans la tête, comme disent les vieux. Ces gens qui ont annoncé à la playlist Rap de ouf sur Spotify et aux Poppers, parce que ça leur fait des palpitations. D'autant que si je peux me permettre, Brigitte à 66 ans a quand même un corps de rêve. Moi, 30 ans de soupe de légumes avec un anneau gastrique de la taille du trou de balle d'un chaton, jamais je n'aurais cette ligne. Elle a des jambes qui pousseraient un fétichiste des pieds à renoncer à sa passion et devenir fétichiste des genoux. Et tout est beau dans le genou, comme le disait récemment un ami qui est cannibale et dyslexique. Mais vous savez comment sont les gens? Ils trouvent un truc sur le président et durant 5 ans le répètent. On a eu la taille de Sarkozy. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous avez vu tout ce qu'il a fait pour la France? Bon, ok, pas grand-chose, mais s'il avait été grand, ça aurait été pareil. On a eu la cravate de travers de Hollande, elle portait à gauche, ce qui est étonnant au vu de la politique qu'il a menée. Et là, Macron, c'est sa femme, qui serait trop vieille. On ne sait pas par rapport à quoi. Parce que sur l'échelle de Jean-Pierre Elkabbach, par exemple, c'est une jeunette. On a envie de lui offrir des tickets pour un concert de pop coréen avant de lui dire « Cocotte, prend un figolu ». Quand on lit les commentaires des gens sur Facebook, ça va loin. Certains suggèrent que Bri-Bri, qui était prof, a détourné Manu de son bac à deux juste en bougeant du boule. Mais il me semble qu'il était partant. Elle l'a pas plaqué contre le tableau noir en lui hurlant « Tu vois le dormeur du Val, mon gros loup, bah c'est pas toi parce que je vais te réveiller ». Bref, il y a tellement de choses à reprocher à Macron. Cette auto-satisfaction permanente que Loana n'a jamais eue. Le fait qu'il ait découvert l'écologie il y a 4 jours, que je comprends pas qu'on s'en prenne à sa femme. À la rigueur qu'on s'en prenne à celle de Teddy Riner, parce que lui fait 130 kilos, il peut broyer un berger allemand entre ses pectoraux. Pas ça encore. Mais Macron tout mouillé, on dirait Laurent Deutsch s'il était passé sous un bus alors une pichenette et il fait un AVC. Et encore que nous, le peuple, on se moque. C'est compréhensible parce qu'on n'est pas fin, mais un président, ça, c'est pas possible. Et pourtant, l'un d'entre eux l'a fait. Jair Bolsonaro, le Brésilien. Un idiot, comme tous les chefs d'État maintenant. C'est pas une planète, c'est le remake de Jackass. Ah, on a l'impression qu'un énorme moustique-tigre leur a pompé la moitié du cerveau. Boris Johnson, Trump, Bolsonaro, ils sont tellement cons que Merkel à côté, on a l'impression que c'est Hubert Reeves, hein, sans les poils. Mais alors, je résume l'histoire. Un internaute brésilien poste sur Facebook une photo d'Emmanuel et Brigitte, nos pliques et plocs de l'amour. Avec écrit, vous comprenez maintenant pourquoi Macron s'en prend à Bolsonaro. Sous-entendu, le pauvre, il s'est marié avec la grand-tante de Régine. Là, c'est tellement bête qu'en général, on ne répond pas. Parce qu'enchérir là-dessus, c'est se salir. On se retrouve dans l'état d'un vomitorium romain un soir où Brutus avait la touriste. Mais Bolsonaro a répondu, la moitié de son pays est en feu, mais le type est sur Facebook.
Ouais, il a écrit, n'humilie pas le type et mort de rire, quoi, avec un smiley mort de rire.
Oui, il a fait ah, c'est ça. Hein, c'est là que vous, normalement, vous auriez dû faire le ah, Nagui, parce
mais
que
je sais pas
prévu,
le faire,
voyez,
moi, le ah.
Voilà, hein, vous le faites comme Fantomas. Bref, Bolsonaro a validé le message de son fan, donc c'est comme si c'est lui qui l'avait écrit. Quand un fan écrit sur ma page Facebook, mec, tu déchires, et que je réponds, c'est vrai. Ah, on comprend que je m'aime. En général, ça dure un quart d'heure parce que j'ai moins d'estime de moi que Mike Brandt le matin où il a décidé qu'il devait bien y avoir une alternative à l'ascenseur. Bolsonaro, lui, a 65 ans, l'âge de Brigitte, est avec une femme de 37. C'est plus ou moins l'inverse des Macron, mais dans ce sens-là, tout le monde valide. Le jour où Gérard Collomb annoncera sa liaison avec Greta Thunberg, tout le monde lui dira « Yes, bien joué mon pote, à toi les Chris Prods au petit-déj, si tu veux faire du SM, tu vas pouvoir te nouer le sexe avec ses nattes, mon cochon !» Mais une dame plus vieille que son Jules, c'est niette. Alors qu'en fait, si on réfléchit, ce qui n'est pas si facile au mois d'août, Bolsonaro, c'est juste un homme de pouvoir à l'ancienne, un beauf, sa femme c'est un trophée, il n'a jamais fait de ping-pong au niveau départemental, sinon il aurait eu une coupe, donc il a pris une dame plus jeune et il compare son physique tranquillou à celui de Brigitte Macron. Mais ce qui a fâché Manu, hier il était en boule, on avait envie de le malaxer en cas de stress, alors qu'il était aux côtés du président chilien Sébastien Pinera, un type qui a un nom à tourner des pornos futuristes. Il a déclaré « J'espère que les Brésiliens auront bientôt un président à la hauteur ». Si Bouba dit ça à Kaharis, on se dit « Ouais, il se refroidit, tic et tac ». Mais dans le monde de la diplomatie, ce type de phrase, ça calme tout le monde. Les diplomates se sont dit « Macron, c'est Charles Manson ». Et Macron a rappelé que Bolsonaro avait quand même planté un rendez-vous avec
Jean-Yves Le Drian, le breton dépressif, pour aller chez le coiffeur. Hein, ce que Boris Johnson ne fera jamais. C'est-à-dire que la blague, quand votre chef de service vous dit qu'il y a réunion et que vous répondez « je peux pas, j'ai piscine », blague qui date de l'invention de la piscine privée en 880 par Godefroy de Bolloré, l'ancêtre de Vincent. Eh ben, Bolsonaro, il applique cette blague à sa vie quotidienne. Il va chez le coiffeur, il est sur Facebook, la vie d'une influenceuse. On va le retrouver en slip sur une licorne gonflable pour l'Instagram de Nabila. Alors pendant ce temps, bah, la forêt brûle hein, en Amazonie et partout ailleurs. Alors, sauf celle du Center Park du Bois-Audin près de Tours, hein, j'ai vérifié, voilà. Hein, donc gérons les vrais problèmes et foutons la paix à Brigitte avec son âge, qui est le seul truc qu'on ne choisit pas. Sinon là, moi, j'aurais 22 ans, quoi.
Merci, Tanguy Pacquiao.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Avant de reprendre et de parler de Beaumarchais, le livre signé par Eric Corsena de l'Académie française, Un aventurier de la liberté, publié chez Stock, à nouveau une interro, mais là, cette fois-ci, elle vous permettra de répondre, vous aussi, Eric Orsena, ainsi que tout le monde autour de cette table, concernant, par exemple, cette information. On a découvert que le fameux Jeffrey Epstein, vous savez, le monsieur qui s'est auto-suicidé, soi-disant, le milliardaire, donc, suicidé en prison, à son domicile de Manhattan, avait un tableau un peu étrange qui représentait une personnalité portant une robe bleue et des talons rouges. Avez-vous une idée de la personnalité dans le, sur le tableau?
Jean-Luc Orsena.
Attends, d'abord, honneur à Eric Orsena.
Non.
Non, pas d'idée.
Mort.
Tom, il est... Non.
C'est un homme, donc.
Bill Clinton.
C'est un homme, pardon?
Bill Clinton.
Exactement. Bien joué, Tanguy Pacquiao.
Mais c'était un pote. C'était un ami de la haute.
En robe et talons.
Ah, bah écoutez, vous savez maintenant ce qu'ils ont fait de leur soirée.
Malheureusement. Ouais, exactement. Tableau de chez ce mec, chez ce pervers monteur de réseau pédophile. Enfin, un truc.
Tout de suite les raccourcis.
Non. Pour répondre aux bouchons de plus en plus nombreux devant les tableaux, Star, le musée du Louvre a décidé de mettre en œuvre une nouveauté à partir de cet automne.
Pour réserver
Fast Life,
pour réserver un créneau
sur internet.
Exactement. Ouais. Ouais. Réservation obligatoire. Ouais. Il a bien vu. Moi, ouais, bah quoi.
Oui. Daniel aussi.
Ouais. Oui, non, mais toi.
Ce qui fait que certains jours, il y a tellement de réservations que les gens ne peuvent même plus accéder normalement.
Mais je sais pas comment ça marche. C'est-à-dire, tu réserves. Bah, il y a un horaire et tu
viens. Ouais, 17h15 et.
Et t'es seul devant la Joconde.
Ouais. Enfin non, t'es avec
simplement
les
si tu viens en robe bleue et je suis rouge. Ça, c'est important.
Non, t'es pas seul, mais t'as un groupe, quoi, j'imagine. Ouais.
D'accord.
Un face pour ce genre.
Ok. Le 30 août va s'ouvrir à Tolède en Espagne un parc à thème, pas comme les autres.
Tu du fou.
Ouais.
Oh là là. Un puits du fou à Tolède.
Ouais. Mais ça, c'est ta proximité avec Edouvilliers qui fait que.
Oui, totalement.
Mais il n'y a pas un problème de géographie, nous qui avons parlé de géographie avec Rémi, là.
C'est le puits du fou espagnol.
Okay. Ah, il va y en avoir d'autres, il va y avoir un russe aussi, je crois, ou un truc comme ça.
Mais c'est pas très cohérent, je suis d'accord, parce que l'histoire de la Vendée. Bah non, je sais pas.
Mais si, c'est adapté au lieu.
Ils vont prendre en compte le
l'histoire. On est sur un terrain, les gars.
Il y a 185 acteurs qui vont raconter, tu as raison, 1500 ans d'histoire espagnole, calquée sur le modèle de la Cinécénie, spectacle qui rejoue l'histoire de la Vendée.
Mais non, ça va pas s'appeler Puy du Fou. Beaumarchais,
un aventurier de la liberté, un aventurier qui a vécu avec son époque au milieu aussi de toutes ces lumières qui étaient Voltaire, Mozart, dont vous parlez beaucoup, n'est-ce pas, Léla?
Et moi, je découvre justement le travail qu'il a mené autour de l'œuvre de Voltaire. Et ça, c'est une découverte dans votre bouquin, Eric Orsena.
Oui, c'est qu'il a décidé d'être éditeur, alors qu'il n'avait jamais été éditeur. Et éditer les œuvres de Voltaire était interdite en France parce qu'on était puni d'excommunication étant donné tout ce qu'il avait raconté. Donc il trouve un imprimeur, il trouve des petits éléments de typographie, il va trouver un fort qui est juste à la frontière.
Ils vont en Allemagne.
Ouais. Juste de l'autre côté de Strasbourg. Et puis il y a des batailles incroyables parce que évidemment il y a des gens qui sont contre lui, donc il fait des histoires sans arrêt, parce qu'à chaque fois qu'il se lance dans un projet, ça, il y a des problèmes énormes. Parce que en même temps qu'il est éditeur de Voltaire, en même temps, il achète à un libraire flamand 40 000 fusils en pleine révolution. Alors, évidemment, les gouvernements qui se succèdent veulent récupérer les fusils pour toucher du pognon sur la vente des fusils. Donc, il a le monde entier contre lui de la Révolution.
Oui, alors tout ça,
parce qu'il voulait se faire bien voir.
Oui, et puis il voulait se faire des affaires aussi, et se faire
et
de l'argent.
Fois,
mais alors pourquoi lui qui était soucieux du droit d'auteur, lui qui était soucieux de l'édition, lui qui était soucieux de faire de l'argent et de gagner de l'argent, comment se laisse-t-il, entre guillemets, voler le mariage de Figaro par Mozart?
Alors, il se laisse pas voler, c'est qu'il y a un truc qui est amusant, enfin une belle histoire, c'est que il est tout sauf révolutionnaire. Il a tout fait pour s'installer dans la noblesse.
Et pourtant, la phrase dite dans Le mariage de Figaro est
alors c'est la phrase clé. Mais c'est ça, cette personne qui ne peut pas s'empêcher de dire la phrase qui va le faire condamner. Et cette phrase, je l'ai notée parce qu'elle me passionne, parce qu'il dit, c'est le Figaro, donc le domestique, qui dit au comte, qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire.
C'est là que ça pique.
Et ça, c'est la base même, le fondement de tout l'Ancien Régime, où tout venait de la naissance. Vous pouviez faire ce que vous vouliez, vous n'étiez pas, comme on dit, né. C'est une phrase insensée. Ouais. Vous n'êtes pas né. On demande qui vous êtes. Vous n'êtes pas né. Donc, ils disent, ça, c'est pas possible. Et quand il lit cette scène incroyable, la première fois avant que ça soit représenté, il lit le mariage de Figaro, enfin, la lectrice officielle de la cour lit le mariage de Figaro devant Marie-Antoinette, qui adore, et Louis XVI qui dit, jamais je permettrai cette pièce. Donc, cette pièce est là. Molière, Mozart se rend compte que cette histoire est incroyable. Et demande à son librettiste, celui qui fait le livret, qui est da Ponte et qui mériterait aussi une vie, qui a une vie incroyable, demande de raboter un peu. Et on rabote cette pièce. Et là, ça m'amuse beaucoup parce que dans deux jours, je vais au festival de musique de William Christie en Vendée, à Tiré, et on est en train de monter un petit spectacle qui s'appellera « Du mariage aux noces ». Et qui est avec le passage de la pièce à l'opéra. Et comment on raconte le 18e sur cette affaire-là? Et donc, tous les grands révolutionnaires, Robespierre, Danton, ont dit que cette phrase-là, c'est la phrase qui a mis le feu aux poudres. À un moment donné, une phrase, comme une musique, comme une peinture, met le feu aux poudres. Voilà.
Un peu de Noces de Figaro, quand même.
Bah, bien sûr.
Ah bah, on est sur un terme, on n'est pas. Et il va vouloir se mettre lui aussi à la musique et il va aller voir Salieri, c'est-à-dire...
Voilà, et il veut refaire un opéra lui, ouais. Il va voir Salieri, et donc c'est Salieri qui va lui modifier un peu la musique qu'il avait faite parce que la musique était moyenne.
Il était malin, brillant,
l'histoire
intelligent,
était mauvaise, ouais.
Ouais, mais un peu magouilleur aussi.
Totalement magouilleur, c'est vrai qu'il n'a pas de frontières. Donc c'est vrai que quand on dit... aventurier de la liberté. Ouais. Quand on dit aventurier, il y a deux façons de voir aventurier. Aventurier, ça veut dire explorateur, mais aventurier, comme dit le dictionnaire, c'est péjoratif aussi. Donc il y a les deux côtés. Et donc moi, j'aime bien de voir l'ensemble du personnage, évidemment pas le juger, mais voir personne qui est dans la contradiction.
Non, un peu obsédé sexuel, admirant le pouvoir, attiré par
oui, mais
l'argent.
Touchant. Parce
mais je ne parle pas de Beaumarchais, je parle de Daniel Morin.
Voilà,
bien sûr.
Bravo.
Et la vie quotidienne, les amis, peut apporter son lot de surprises inattendues, croyez-moi. Tenez, hier, scène banale, voire affligeante de mon quotidien. Je suis en train de regarder la télé avec ma femme, coupure pub, et pendant la pub, on voit ça.
Son mec l'a trompé. Qu'en est-il du tien? Envoie Cocu au
732-02
et nos experts répondront aux questions qui te tracassent. Envoie Cocu au 732-02.
Voilà. Un numéro de téléphone qui te dit en fin de conversation si tu es Cocu ou pas.
Tu l'as fait.
Quoi. Non mais attends, et qu'est-ce que je vois, Nagui? Ma femme prend son téléphone.
Non, génial.
Mais qu'est-ce que tu fais, Moumoune?
J'appelle. Je veux vérifier un truc.
Ne dis pas que t'appelles le numéro pour les cocus.
Ah, tu t'inquiètes. T'as pas la conscience tranquille.
C'est pas ça. C'est des numéros. Oui, c'est un peu dégueulasse.
C'est la bonne Moumoune.
C'est des numéros surtaxés. Tu vas payer une blinde pour rien.
Ah bon? Parce que me tromper, c'est rien, peut-être?
Mais non, mais je te trompe pas, enfin. Alors pourquoi t'as peur que j'appelle? Mais j'ai pas peur. C'est des conneries, tout ça. C'est de l'arnaque.
C'est mon pognon. Je fais ce que je veux. Ça appelle.
SOS Cocu, bonsoir.
Bonsoir monsieur, alors voilà, j'appelle parce que j'ai des doutes sur mon mari.
Des doutes quant à sa fidélité ?
Oui, c'est ça.
Il travaille où, votre mari ?
À France Inter.
Aïe, 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 aïe.
Comment ça, aïe ?
Ben, c'est un grand classique. Quand on est mal payé, on va chercher des compensations ailleurs.
Vous croyez qu'il me trompe ?
Je peux pas être catégorique, mais il y a des chances. Il travaille avec qui ?
Avec Nagui.
Ouille, 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 ouille.
Comment ça, ouille ?
Ben, Nagui a mauvaise réputation. Il est connu pour organiser des soirées hyper sales et sans la moindre hygiène.
Je m'en doutais un peu, pour vous dire la vérité. Il a le vice dans le regard, cet
oui,
homme-là.
C'est ça, oui.
Petit, fourbe. Quand il vous regarde le cul, c'est comme s'il regardait une pizza. Moi, personnellement, il me fait très peur.
Vous avez raison d'avoir peur, madame. Il a des antécédents très inquiétants.
Ah bon ?
Oui. Pour l'instant, il est couvert par son ami Balkany, mais quand il va tomber, Patrick, Nagui va le suivre en taule très rapidement.
Bon ben, je suis cocu, alors.
Il y a des chances. En même temps, comme dirait Beaumarchais, ça dépend pas que de l'animateur. Votre mari est proche de qui ? Il est proche de ce Nagui ?
Non. Malheureusement. Heureusement, je veux dire, il le déteste. Mais des fois, on se laisse entraîner.
Il y a des invités dans l'émission ?
Oui, un différent tous les jours.
Quel genre d'invité ?
Par exemple, demain, il y a Eric Orsena.
Oh, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu.
Comment ça, nom de Dieu ?
Il n'y a pas plus vicelard qu'Eric Orsena. Gros consommateur de préservatifs, il passe sa vie à poil et c'est un gros, gros, gros guerluchonneur.
Vous êtes sûr ?
100%.
On parle bien du petit monsieur avec des petites lunettes et une petite moustache.
Lui-même. Vous avez déjà fait attention à son regard ?
Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il a un air louche. C'est ma copine Marie-Martine qui me l'a dit.
Madame, c'est simple, Eric Orsena passe tout son temps dans les clubs échangistes.
Non.
Si.
Il échange quoi ?
Peut-être votre mari.
Quoi ? Mon mari couche avec Eric Orsena ?
J'ai pas dit ça, madame. Mais vous savez ce que c'est. La notoriété, ça peut être attirant. Et votre mari, dans un moment de faiblesse, a peut-être craqué.
La notoriété, ça excite les autres ?
Bon, enfin, bien sûr, ma petite madame. Sans l'attrait, la notoriété, Michel Drucker sera vierge. Bon, au final, elle n'a pas eu sa réponse, ma pauvre femme. Maintenant, elle pense qu'à une chose, c'est rencontrer Michel Drucker. Bon, en même temps, comme dirait l'éditeur de Voltaire... En même temps, c'est bientôt la fin de l'émission et je tenais à vous dire que je vous trouve très très séduisant, Eric Orsena. J'adorerais qu'on aille dîner ensemble un de ces soirs. À demain.
Merci.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Avec des allers-retours entre le XVIIIe siècle et notre quotidien, Eric Orsena, vous avez joué aussi à écrire un tout petit peu au rythme de l'écriture de Beaumarchais, puisqu'il y a beaucoup de citations, de lettres, d'extraits des œuvres de Beaumarchais. Il fallait aussi que la syntaxe ou la musique ou le rythme rejoignent.
Oui, c'est vrai qu'on est un peu à la manière d'eux. C'est-à-dire, on plonge de la même manière, évidemment, sans atteindre à ses sommets. Mais quand vous parlez de La Fontaine, c'est forcément, vous mettez un petit peu dans ce mood-là. Et puis, le 18e, c'est vraiment ça. On parlait tout à l'heure de Swift qui raconte les histoires de Gulliver. Lisez le vrai texte de Gulliver. C'est incroyable de précision. Pas de méchanceté, mais d'acuité, comme ça, pour choper un peu la...
En tout cas, c'est extrêmement agréable à lire. C'est drôle, c'est rythmé.
C'est rythmé, c'est assez musical, essayez.
Totalement.
Et c'est amusant, vous voyez, de faire des chapitres courts et puis d'autres plus longs, de prendre son temps, la mélodie. Vous savez, comme on disait avant, les pleins et les déliés.
Mm-hmm. Ça marche. Eric Orsena, c'est chez Stock. Leïla, qu'est-ce que tu retiens,
ouais. La citation de Pessoa, qui résume bien et à la fois le personnage de Beaumarchais et puis une sorte d'état d'esprit, n'être qu'un est une prison. Et je trouve que ça, c'est la petite leçon qui se dégage du bouquin.
Et puis, il y a un point qui, moi, que...
Vous aurez le mot de la fin, Eric Orsena.
Pardon, désolé d'être venu.
Le fait que Bill Clinton était en jupe, et ça m'excite beaucoup.
Tu penses au chevalier Déon, toi, c'est pour ça.
La réplique de Figaro, elle est bien citée.
C'est-à-dire
n'être que né
c'est ça. Tom Villa,
qu'il faut persévérer et que Eric Orsena comme Beaumarchais, on a beau eu leur dire c'était pas terrible, ils ont bossé 48 heures et puis il y en a un qui a eu le concours et l'autre qui a fait un carton au théâtre.
Exact. Daniel Morin,
Être seul en prison quelquefois c'est pas plus mal. Ça évite des déconvenues.
Eric Orsena, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise de votre livre après l'avoir lu ?
Écoutez, c'est une citation du même Beaumarchais, le Barbier de Séville, acte 1, scène 2. Bannissons le chagrin, il nous consume.
Joli. Des excuses à présenter,
Daniel. Bien sûr. Désolé déjà pour Eric Orsena, notre invité qui a découvert ce matin les contrats et le salariat version France Inter, basée sur la gratuité et aussi la bonne volonté. Bon, Eric, on sait bien que vous êtes plus riche que Nagui et Marina Rollman réunis, ce qui fait énormément. D'ailleurs, je veux bien un petit verrement, si vous êtes bon chrétien, vous acceptez. Enfin voilà, je dis ça, je dis rien. Désolé pour Marina Bitchy fucking Rollman, j'ai eu la direction de Radio France. Elle a compris le message, mais ils ne peuvent t'offrir pour l'instant qu'un sac plastique Auchan, déjà utilisé comme sac à vomi par Léa Salamé et Nicolas Demorand. Léa Salamé quand même, c'est pas n'importe quoi. Et désolé enfin pour les membres de l'Académie française et de l'Académie Goncourt qui ont découvert ce matin de leurs membres éminents faire l'hélicoptère. Eh ouais, c'est ça. La BO, à la BO, on est libre, on n'est pas au masque et à la plume. Même si là-bas, il se passe des trucs bien dégueulasses qui impliquent souvent, je balance Xavier Le Harper avec des animaux de petite taille.
Oh non.
Merci Daniel. Merci Eric Orsena. Beau marché un aventurier de la liberté, c'est chez Stock. Demain, Zita Enro, Grand Corps Malade et Midi Idir seront là pour le film La vie scolaire. Ouais, c'est ça, vie scolaire.